Vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, bonsoir et merci de suivre le journal de ce 25 janvier 2022. Au Burkina Faso, le président Rochmark Christian Kabore a été renversé par des militaires hier, lundi 24 janvier 2022. Adama Zouré, délégué des Burkinabés vivant au Niger, demande aux putschistes le respect de leurs engagements. Incinération des 199 briques de cocaïne à la périphérie de Niamey ce matin. Elles ont été saisies à Agadez il y a quelques jours. En partie magazine, l'extraction de l'huile de sésame dans la région de Maradi avec Amina Oumourou de la coopérative Carrière Moutounchi de Mayaï. Hawa Momana au micro. Après le coup d'état militaire intervenu hier au Burkina Faso, perpétré par le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, les Burkinabés vivant au Niger demandent aux putschistes le respect de leurs engagements, notamment la lutte contre le terrorisme et le retour de la paix au Burkina Faso. Adama Zouré, délégué des Burkinabés au Niger, joint au téléphone par Moussa Hassan.
La situation dans le pays a longtemps... Les choses, ça n'avance pas, mais c'est la situation du pays, surtout en Afrique de l'Ouest, avec les menaces terroristes qui nous fatiguent au Burkina. Les militaires ont pu prendre leurs responsabilités en main, mais en tant que ressortissants burkinabés vivant au Niger, nous voulons seulement que la paix revienne au Burkina Faso. Nous craignons aussi les conséquences dans ce coup, puisque avec la déstabilisation du pays, c'est pas sûr, il faut recommencer tout à zéro. C'est pas facile. Donc, notre inquiétude aussi, c'est la gérance aussi, quoi. On a l'expérience sur des coups. Quand ça commence, on nous rassure que ça va aller. Mais à la longue, c'est pas ce que nous attendons. Les choses sont déjà faites. On peut plus aller en arrière, mais nous souhaitons seulement qu'ils puissent voir la situation en face, voir ce qui les a poussés à prendre le pouvoir, c'est pour lutter contre le terrorisme. Donc, c'est pour ramener la paix au Burkina Faso. Nous aussi, c'est ce que nous souhaitons attaquer tout ça.
Trois coups d'État en moins d'une année, l'Afrique de l'Ouest est depuis quelques mois secouée par l'irruption des militaires au pouvoir. Cette répétition des putschs en Afrique de l'Ouest est la conséquence de la mauvaise gouvernance démocratique, explique Dr Ali Tunkara, directeur du Centre d'études sécuritaires et stratégiques au Sahel basé à Bamako. Il est joint au téléphone par Mokhtar Amadou.
La répétition des coups de force ou des coups d'État en Afrique de l'Ouest est un témoignage éloquent de l'échec des réponses proposées par les dirigeants qui sont victimes de ces différents coups d'État, même ceux-là qui ne le sont pas en termes de bonne gouvernance, notamment la gouvernance sécuritaire, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Guinée-Conakry. S'il y a un dénominateur commun entre ces trois coups d'État, il s'appelle la mauvaise gouvernance. La non-satisfaction des demandes ou des besoins exprimés par les populations dans ce qu'on pourrait qualifier de domaine régalien de l'État, notamment une justice équitable et égalitaire, une couverture sécuritaire adéquate, le sentiment de vivre dans un État soucieux de leur bien-être. Et ce sont ces facteurs qui sous-tendent la recrudescence de coups d'État ou la répétition de coups d'État dans le contexte ouest-africain.
Les 199 briques de cocaïne saisies à Agadez par l'Ocrtis ont été incinérées ce matin à la périphérie de Niamey. Cette incinération s'est déroulée devant la presse nationale et internationale, ainsi que les autorités et les acteurs de la société civile. Un extrait du discours du ministre Ikta Abdoulaye Mohamed de la Justice peu avant l'incinération.
Nous sommes réunis ce jour 25 janvier 2022 pour procéder à l'incinération des 199 briques de cocaïne, soit 214,63 kg qui ont été récemment saisies par nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de leurs activités de contrôle et de répression des trafics illicites de drogue. Cette quantité a fait l'objet de scellés déposés au greffe du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Comme le prescrit l'ordonnance du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue à son article 142, je cite, sauf dans les cas où la conservation des plantes et des substances saisies est absolument indispensable à la procédure, l'autorité judiciaire ordonne et fait exécuter dans le plus bref délai, après la saisie, la destruction complète de la drogue.
Des propos recueillis par Tamnan Foudey Ahmed. Depuis hier, les cours sont suspendus dans toutes les écoles du département d'Abalak, région d'Ottawa. Cette situation fait suite à l'arrestation d'un enseignant après une altercation avec la fille du président du tribunal de la localité. Ibrahim Abdou, représentant du collectif des enseignants d'Abalak, indique que leur camarade a été libéré ce matin. Il est interrogé au téléphone par Ali Tajissir.
Notre camarade, il est libre, il est avec nous. Je me suppose que la chacun de notre camarade a été arbitraire parce que juste il a eu une petite altercation avec la fille de la femme du président du tribunal. Et suite à ça, la femme a insulté toute la communauté de Balak. Et donc il a dit non, on ne peut pas insulter toute la communauté quand même. Toi aussi tu vis dans cette communauté. Donc voilà tout ce que le camarade a dit. Elle a dit à sa maman. Sa maman est venue, le camarade a réitéré ce qu'il a dit. Donc, et suite à cela, le camarade a été interpellé au commissariat à 20h, il a passé la nuit. Et hier, à notre grand surprise, il n'a même pas été entendu par le juge. Le juge nous a déféré directement à la prison civile. On va porter plainte.
Les accouchements à domicile sont déconseillés par les services de santé. Pourtant, selon les responsables sanitaires de la région de Diffa, cela prend de l'ampleur compte tenu des difficultés d'accès aux centres de santé pendant les horaires du couvre-feu. Boukar Nafissa, sage-femme du centre de santé intégré de Diffa, explique la situation au micro de Guidi Abdraman.
Au niveau de notre CSI, la situation, on peut dire que c'est très acceptable parce qu'on arrive à avoir des femmes qui viennent accoucher au niveau de notre centre de santé. C'est des femmes qu'on a suivies. On arrive à rencontrer peu de difficultés. Des femmes, si elles appellent les sapeurs-pompiers, avant qu'elles n'arrivent, déjà elles accouchent à domicile. On préfère que les femmes, dès qu'elles appellent, qu'on arrive à les amener dans un bref délai au niveau du centre de santé. Les problèmes qu'on arrive à rencontrer au moment des accouchements à domicile, la plupart c'est les hémorragies du postpartum et aussi il y a la rupture prématurée des membranes ou bien accouche d'un enfant qui vient avec une asphyxie ou une détresse respiratoire. Donc c'est pour ça qu'on incite aux femmes de venir accoucher au niveau du centre de santé, quelle que soit l'heure, pour éviter ce genre de problème.
Ouverture hier à Niamey de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois de janvier 2022. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour, dont un projet de loi sur le statut et le mode de financement des radios communautaires et associatives. Il a pour objectif de mobiliser des ressources pour ces médias locaux. Séné Ayoubakaka, rapporteur général du CSC, répond au micro de Habibou Karpa.
Si on revient sur la question du projet de loi, celui du statut et du mode de financement des radios communautaires et associatives, donc un travail de base a été fait. C'est ce travail qui sera examiné et adopté la plénière durant cette session. Vous savez, l'adoption des textes, c'est tout un processus. Quand le CSC va adopter ces projets de loi, vont être soumis au gouvernement. Il sera dans le circuit d'adoption. On ne sait pas combien de temps ces documents vont prendre pour être adoptés. L'objectif, c'est de permettre le financement des radios communautaires via l'État. Dans ces projets de loi, on a fait, si je peux le dire, des propositions de financement à l'État. Comment est-ce que l'État peut financer ces radios communautaires et également encourager également les partenaires à financer ces radios communautaires.
Dans tout le Niger, en cas d'incendie, d'accident de la route, on peut recourir au service des sapeurs-pompiers en composant le numéro 18. Quand vous appelez ce numéro, vous avez l'impression de ne pas être en ligne, mais selon le commandant du groupement national des sapeurs-pompiers à Niamey, il y a un rapide protocole à suivre avant intervention. Colonel Sidi Mohamed, commandant du groupement national des sapeurs-pompiers, interrogé par Zainabou Abdou.
Le numéro 18 est le numéro d'appel des sapeurs-pompiers sur l'ensemble du territoire national. Mais il est géré au niveau des sociétés de téléphonie et au niveau de la Sonitel. Quand vous appelez le 18 à Zender, normalement, ça doit répondre à Zender. Et c'est les pompiers de Zender qui partent pour l'intervention. Quand vous appelez à Niamey, c'est forcément à Niamey. C'est purement technique. Effectivement, c'est un problème que nous avons essayé de gérer avec les sociétés de téléphonie. Quand vous appelez le 18, vous avez l'impression que l'appel n'arrive pas. Et oui, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés et parce que ces appels sont gratuits. Les faux appels des vrais, nous faisons ce qu'on appelle le contre-appel. Lorsque vous appelez le 18, il y a au bout du fil un stationnaire. Il vous pose un certain nombre de questions le plus rapidement possible pour que les secours puissent sortir. Vous lui donnez un numéro de contre-appel qui lui permet de vérifier si l'appel est faux ou s'il est vrai.
Bientôt, une bibliothèque nationale du Niger verra le jour. Elle va regrouper tout le patrimoine national, une institution étatique qui facilitera le travail aux chercheurs et permettra de centraliser l'identité culturelle et intellectuelle du Niger, selon son directeur général Edouard Lompo Amadou. Il est au micro de Ali Tajsir.
La Bibliothèque nationale du Niger, c'est un vieux projet sur lequel beaucoup de gens travaillent depuis des dizaines d'années. La Bibliothèque nationale a été créée, on va dire, par l'ordonnance du 3 novembre 2009 et les statuts ont été adoptés par décret en février 2018. La Bibliothèque nationale concerne tout le patrimoine nigérien. Tout le patrimoine, je viens de tout, que ce soit des livres, que ce soit l'art, que ce soit la musique, que ce soit toutes les œuvres qui parlent du Niger doivent être à la Bibliothèque nationale. Vous ne pouvez pas venir à la Bibliothèque nationale et rater un élément sur le Niger. Même si ça a été fait aux États-Unis, nous devons être capables de trouver ces éléments-là et les déposer ici. Donc pour cela, nous avons un expert pour nous mettre les textes en coordination. Pour le moment, je dis, nous sommes dans les anciens locaux du BNDA. Nous sommes en train vraiment de nous structurer. Bientôt, je pense, dans quelques mois, nous pouvons nous installer déjà dans un siège visible.
Après les phases de poule, les matchs éliminatoires directs des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football ont débuté dimanche au Cameroun. 16 équipes sont au rendez-vous pour se qualifier en quart de finale. Zakariaou Ibrahim, entraîneur de l'Union sportive de la Gendarmerie nationale du Niger, fait une analyse des matchs joués au micro de Salamatou Kadri.
Je pense que le niveau des matchs de poule de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021 a été globalement moyen. Il y a eu des surprises avec l'élimination dès le premier tour, j'allais dire, du tenant du titre, même l'Algérie, et du Ghana qui a été 4 fois détentrice de la Coupe d'Afrique. Donc vraiment, il y a eu des surprises. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du football. Il faut cependant reconnaître que les 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale sont les meilleurs de cette phase de groupe. Et il faut s'attendre à des matchs très serrés en huitièmes de finale puisque ce sont des matchs d'élimination directe. Tout va se jouer sur le mental, le physique et surtout la tactique aussi parce que ça va être des matchs très très serrés qui seront âprement disputés. Nous allons avoir des scores très serrés parce que chaque fois, peut-être certaines rencontres sont déséquilibrées. C'est ce qu'on pense sur le papier. Mais sur le terrain, ça va être différent certainement. Les huitièmes du final seront très élevés et très âprement disputés.
Partie magazine, riche en vitamines, l'huile de sésame est aussi un excellent remède contre plusieurs maladies. Elle peut être utilisée dans l'alimentation, mais aussi dans le cosmétique, car elle soigne et traite la peau, tout en la protégeant des effets du rayonnement du soleil. Amina Oumourou, membre de la coopérative Carrière Moutounchi de Mayaï, dans la région de Maradi, explique le processus d'extraction de l'huile de sésame au micro de Hawa Ousmane.
Pour faire l'huile de sésame, c'est le sésame même qu'on achète pour venir griller. On le sépare de son son et les déchets. Puis on va le moudre au moulin. Après, on le met dans un mortier pour le piler et le travailler, jusqu'à séparer les résidus de l'huile. Puis on met un tissu pour filtrer l'huile. Souvent, les résidus, on peut les faire cuire ou les frire avec de l'huile végétale. Après, on les sèche pour préparer des épices ou le donner aux animaux. L'importance de l'huile de sésame, c'est qu'il soigne tout, comme la tension, l'hématie, et soigne aussi la douleur des articulations. Et ça soigne même toute maladie dans le corps.
Avec une tasse de sésame, combien de litres d'huile peut-on extraire?
Avec une tasse, on peut avoir de l'huile, mais ça sera peu, car si on travaille 5 tasses de sésame, on arrive à avoir 3 litres d'huile, et sinon 4 demi-litres.
Où est-ce que vous vendez l'huile après l'extraction?
Partout, on le vend, même à Niamey, et même ici, on le paye bien. Avant, c'était qu'à Niamey ou Maradi, mais c'est plus les fonctionnaires qui le payent plus.
Peut-on cuisiner avec l'huile de sésame?
Oui, on peut l'utiliser dans la cuisine. Et même comme ça, on peut le verser dans un plat, comme l'huile d'arachide. Mais c'est plus vitaminé que l'huile d'arachide.
Comment avez-vous appris à extraire l'huile? Est-ce une ONG qui vous a formé?
C'est une femme qui est venue ici à Tessawa pour nous former. Et maintenant, on sait le faire nous-mêmes.
Pouvez-vous apprendre aux autres femmes?
Exactement. Actuellement, on peut former d'autres.
Avez-vous l'habitude de participer aux foires?
Oui, nous exposons en Maradi, Niamey et même dans la sous-région, nous sommes allés pour ce travail.
Quels sont les avantages dont vous avez bénéficié à travers cette activité?
Ça nous a beaucoup apporté, car on mange dedans et s'habille même souvent grâce à cela.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.